Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec une académicienne.
Rien n'est plus complexe que le caractère breton, ce prodigieux mélange de ténacité et d'indécision, d'énergie et d'inertie, de rusticité et de délicatesse. C'est ainsi que Yann Kefelec croque l'état d'esprit breton dans son dictionnaire amoureux de la Bretagne. Une disposition mentale tout en dualité que connaît très bien Catherine Bréchignac. Car oui, la grande physicienne française plonge ses racines dans la brume du Finistère. C'est là-bas, là où la Terre se finit, que ses ancêtres sont nés il y a quelques siècles. Et cette Terre lointaine, d'un imaginaire inépuisable, a conduit la scientifique, ancienne présidente du CNRS et secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences, à retracer l'histoire de sa famille dans son dernier livre, « La force de nos racines, une épopée de gens ordinaires ». L'académicienne brosse un tableau de la France d'hier à travers sa lignée Bretagne sur 14 générations. Une enquête monumentale qu'elle vient nous présenter aujourd'hui au studio de l'Institut de France à Paris. Madame Bréchignac, bonjour.
Bonjour.
Un grand merci d'être ici. Je voulais d'abord commencer par vous demander de nous commenter une image. C'est celle qui apparaît sur la couverture de votre livre. Sous le titre, il y a donc cette photo, une photo de famille ancienne. Les femmes portent de jolies coiffes blanches en lin. Qui sont ces personnes ?
Alors, c'est des anonymes, en fait, parce que j'ai trouvé que c'était bien de mettre une famille anonyme, on ne sait pas qui c'est, qui représente au fond l'idée que l'on a du peuple breton d'autrefois. Alors je voulais revenir sur ce que vous avez dit au début, vous avez dit le Finistère, là où la terre a fini, mais ça c'est en français que vous dites ça. Parce que si vous êtes breton, vous dites Penarbed. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire la tête du monde. C'est-à-dire que les Bretons se voient comme étant à la tête du monde parce que l'océan est là et on peut avancer, on court après le soleil en fait sur les bateaux puisqu'on va vers l'Occident. Et les Terriens disent c'est la fin de la Terre. Donc tout dépend comment vous êtes, vous êtes disposé.
Et en parlant de langue bretonne, est-ce que vous la maîtrisez cette langue ?
Non, je ne la maîtrise pas parce que tout d'abord j'ai été élevée par mes grands-parents puisque mes parents étaient étudiants quand j'étais petite. Donc c'est essentiellement mes grands-parents qui m'ont élevée. Et eux-mêmes ne parlaient pas breton parce que Jules Ferry, toute une époque, avait demandé à ce qu'on ne parle plus les dialectes. Et donc, dans la famille à la fois de mon grand-père et de ma grand-mère, leurs parents, qui eux parlaient breton, mes arrière-grands-parents parlaient breton, ont demandé à leurs enfants et ont interdit à leurs enfants de parler breton. Donc ils parlaient français, voilà. Mais j'ai entendu souvent du breton et puis j'ai connu mon arrière-grand-père puisqu'il est mort, j'avais 7 ans. Donc, c'est une langue que j'ai dans l'oreille.
Quelques souvenirs à l'oreille. Alors, on va retourner au sujet principal de votre livre. Vous êtes allé à la rencontre de vos ancêtres en retraçant votre arbre généalogique qui prend racine en Bretagne. Donc, votre enquête débute au XVIIe siècle, donc autour de 1600. C'est le point de départ pour entrer dans la vie de vos ancêtres. Pourquoi cette date ?
Alors cette date, elle vient de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'avant, au Moyen-Âge, on donnait des prénoms aux gens, enfin des noms, et c'était tout. Chacun en avait un. Il n'y avait pas vraiment de lignée. Le premier arbre généalogique est très ancien, mais il est très petit et il n'a pas eu beaucoup d'autres, je dirais, ramifications. Mais les arbres généalogiques du peuple a débuté tout d'abord avec François Ier quand il y a eu les décrets de Villers-Cotterêts, où il a été demandé d'inscrire la date de naissance, enfin les naissances,
sur
les mariages, la mort sur les registres. Et puis, bien sûr, aussi le Concile de Trente, qui, un peu plus tard, a donné exactement les mêmes consignes aux registres paroissiaux. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir, au XVIe siècle, des possibilités d'avoir des noms sur les registres. Mais ils n'étaient pas très bien tenus. Et puis, en plus, il y a eu la dernière guerre de religion qui a été catastrophique, qui a fait que finalement rien n'a été écrit pendant 10 ans. Bon, quand je regarde tout ce qu'il y a sur les registres, eh bien on voit que ça démarre à peu près en 1600.
à chaque fois. Et donc, en partant en 1600, on arrive quand même à une dizaine de générations, ce qui n'est pas rien.
Oui, plus que ça même, parfois.
Oui, vous parlez de 1024 ascendants directs pour votre grand-mère, autant pour votre grand-père. Alors, évidemment, dans ce livre, vous n'avez pas pu raconter la vie de tous ces ancêtres. Il a fallu faire des choix. Oui. Quelle branche mentionner ?
Alors, comme je suis une femme, j'ai pensé que, tout d'abord, c'était important de ne pas rester que sur les patronymes. Donc, côté père, et donc j'ai pris mes quatre arrière-grands-parents de ma branche maternelle, et donc les parents de ma grand-mère et les deux de mon grand-père. Donc, je me retrouve avec, au fond, des gens qui étaient dans l'Argoate, d'autres qui étaient dans l'Armor, d'autres à Brest. Donc, ça donne un peu ce panorama du Léon, et c'est très intéressant au point de vue du peuple breton. Et puis, je suis remontée, alors en général sur les branches des pères, mais de temps en temps, non, parce que sur celle de ma grand-mère, les grands-parents de ma grand-mère s'appelaient tous les deux Karoff avant de se marier. Donc, il y a deux branches Karoff encore et une branche... Donc, en fait, j'ai gardé ce qui me paraissait le plus étonnant comme branche, les branches qui avaient des gens pittoresques.
Et on va en parler dans quelques instants, justement. Le livre couvre une échelle de temps très large. Vous allez du XVIIe jusqu'au XXe siècle, jusqu'à vos grands-parents, donc. Il y a plusieurs grandes périodes de l'histoire qui sont évoquées, la Révolution française, la Révolution industrielle. Et ce qui frappe à travers ce temps qui passe, c'est la sédentarité très ferme qui caractérise la vie de vos ancêtres. Et d'ailleurs, de tous nos ancêtres.
Tout à fait.
C'était des générations qui vivaient au même endroit.
Oui.
Et vous, en l'occurrence, dans ce Finistère.
Oui.
Il y a une autre caractéristique qui forme une continuité chez vos ascendants, c'est leur condition modeste. Alors, du côté de votre branche paternelle, vous parlez de paysans, et puis du côté maternel, des cultivateurs.
Oui.
Des cultivateurs liés à la culture du lin.
Oui.
Et on apprend que c'était une filière très importante dans l'économie bretonne.
Oui, c'est Anne de Bretagne qui, en fait, a fait venir les premières graines de lin. Le lin est d'abord un tissu qui est extraordinairement ancien, puisque les Égyptiens même entouraient leurs momies de lin. Enfin, c'est un tissu qui est un des plus anciens tissus du monde, le plus vieux tissu du monde. Et c'est Anne de Bretagne qui a fait venir des graines du Nord en Bretagne pour cultiver le lin. La Bretagne est une région très propice à ce qu'on appelle le rouissage, c'est-à-dire un mélange de soleil et de pluie qui permet de détacher facilement la paille autour de la tige de lin, ce qui permet ensuite de pouvoir filer les tiges beaucoup plus aisément. Donc, on a eu le lin, et le lin est devenu une des économies bretonnes, intéressante par le fait que c'était une économie sur le plan villageoise. Autrement dit, dans le village, il y avait ceux qui orchestraient la culture du lin, qui fabriquaient les toiles, et qui étaient en fait les paysans les plus riches, les cultivateurs les plus riches. Et puis, vous aviez beaucoup de tisserands, vous aviez des plieurs de toiles, vous avez des fileurs, vous avez toutes sortes... Et tout le village, au fond, quelques milliers de personnes travaillaient et s'articulaient pour cette culture du lin, qui était en fait, une fois qu'on avait tissé les toiles... un produit de vente extrêmement intéressant puisque elle servait de voile pour les navires et elles étaient très réputées pour cela.
Donc là, vous vous basez sur toute l'histoire de l'économie de la Bretagne, mais je me demandais quelle place a pris votre imagination dans l'écriture de ce livre, parce que, évidemment, vous vous basez sur des registres d'état civil, mais toutes les informations qu'on y trouve sont très factuelles, mais on peut être tenté de se mettre à rêver aussi la vie de ses ancêtres, leur personnalité, leurs secrets, leur vie intime. Quelle place l'imagination a pris dans ce livre ?
Tout d'abord, je pense que la réalité dépasse souvent la fiction. Et donc, je me suis quand même beaucoup basée sur les écrits que j'ai trouvés sur la vie du village de l'époque. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes ancêtres dans cette vie du village. C'est-à-dire, quand il arrivait un événement que j'avais lu dans d'autres ouvrages relatant l'histoire de ces villages, je me suis dit, mes ancêtres ont dû vivre à cette époque-là. Ils ont vécu à cette époque-là, donc ils ont participé à ce qui s'est passé. J'ai fait très attention de ne pas les impliquer directement, mais en fait, j'ai tenu compte beaucoup de tous les écrits et par exemple, aux presses universitaires de Rennes, on trouve des écrits absolument extraordinaires sur la vie des villages de l'époque. Donc, d'y mettre ses ancêtres dans la vie du village, c'est assez juste, au fond.
Il y a un de vos ancêtres qui, à titre personnel, m'a particulièrement marqué, et vous aussi d'ailleurs, c'est votre arrière-grand-père, François-Hyacinthe Carleger.
Oui.
Donc breton, d'origine extrêmement modeste, qui a réussi à s'extraire de sa condition. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre arrière-grand-père ?
Cet arrière-grand-père, c'est donc le père de mon grand-père. Et mon grand-père m'a beaucoup parlé de son père, énormément parlé de son père. Donc j'ai non seulement toute sa vie sur les registres paroissiaux, et puis comme il a été militaire aussi, et puis qu'il a eu la Légion d'honneur, tout ce qu'on peut avoir sur lui, et de plus que m'a raconté son fils, mon grand-père. Donc en fait, François-Hyacinthe a eu une vie très étonnante, puisque son père a quitté le pays pagan, qui était une région pauvre de la Bretagne, pour arriver à côté de Brest, et puis où il est parti en Guyane, comme ce qu'on appelait à l'époque garde-chiôme, et c'est-à-dire gardien des forçats, parce qu'à l'époque, le bagne de Brest s'arrêtait d'avoir des bagnards, et on envoyait les bagnards en Guyane. Donc, il est parti pour les transférer là-bas en Guyane comme surveillant, et il a attrapé la fièvre jaune et il n'est jamais revenu. Donc, sa femme, qui avait donc deux enfants, l'un qui avait 2 ans et demi et l'autre, François-Hyacinthe, qui avait 15 mois, est restée veuve avec ses deux enfants. Et puis, s'est remariée avec quelqu'un d'extraordinairement modeste, puisqu'il était journalier à l'Arsenal. Et donc, elle a mis ses deux fils aînés, qui n'étaient pas de son second mari, elle les a mis comme pupilles marines à Brest. Et c'est là qu'ils sont devenus mousses et qu'ils ont non seulement échappé au choléra...
Leur mère va en mourir, il me semble.
Non, leur mère meurt pas, c'est leur beau-père qui meurt, et deux de leurs demi-frères. Donc, eux ont complètement échappé au choléra, parce qu'il y avait une hygiène bien plus grande là où ils étaient. Et ensuite, ils ont appris à lire, à écrire, à apprendre la navigation, évidemment à compter. Ils ont appris le latin. Enfin, ça a été une éducation très forte. Et François-Hyacinthe, qui devait être sans doute intelligent, j'en doute pas, a eu passé tous les échelons jusqu'à devenir premier maître voilier, c'est-à-dire en fait celui qui pilote les voiles sur les bateaux et sur les bateaux écoles. Alors, il a navigué énormément puisqu'il a passé plus de la moitié de sa vie sur mer dans les pays outre-Atlantique.
Bien des pays évidemment. Qui font rêver, Rio, Montevideo, le
Alors
Détroit de Magellan.
Alors il a fait tout un voyage. Et moi, je n'avais que de cesse, c'est d'aller voir cette région du monde. Donc, tout d'abord, je suis allée en Guyane, où j'ai vu le bagne de son père. Et ensuite, je suis allée en Patagonie. Parce que mon grand-père me parlait beaucoup de la Patagonie, de la Terre de Feu, et donc ça fait rêver, évidemment. Quand on a un ancêtre qui a fait ces voyages-là, on a envie de partir.
Et des rencontres aussi surprenantes, puisque au cours d'un voyage en bateau, il va rencontrer un certain Julien Viau.
Alors, il a été pendant un certain moment sur des bateaux écoles avec Julien Viau, qui s'est appelé après Pierre Loti.
Vous retracez la vie donc, de 14 générations. On l'a dit, c'est un travail colossal. Combien de temps vous avez mis pour faire pousser cet arbre généalogique ?
Je sais pas, des centaines d'heures.
Vous avez débuté le travail à partir de
Alors,
quand ?
J'ai débuté le travail parce que mon oncle avait commencé un peu. Mes grands-parents avaient deux enfants, ma mère et mon oncle. Et mon oncle a commencé un peu à chercher ses ancêtres. Donc, je suis partie de ça, je suis partie de ce que m'avaient dit mes grands-parents. Et j'ai remonté jusqu'au dernier que je pouvais trouver. Parce que le centre généalogique du Finistère est un lieu absolument extraordinaire, puisqu'ils ont numérisé, et très très bien numérisé, absolument toutes les archives du Finistère.
Il voulait remercier d'ailleurs en lisant ce livre.
Donc voilà, j'ai commencé petit à petit en me disant « Bon, bah, je vais vérifier, je vais regarder. » C'est amusant maintenant avec l'intelligence artificielle. On peut lire les documents, apprendre un peu la paléo-écriture. Et ensuite, je me suis prise au jeu.
C'est une passion qui a débordé sur vos nuits, vous dites.
Ah oui, complètement.
Dans ce livre. Quelle est la découverte d'ailleurs la plus étonnante que vous ayez pu faire au cours de cette enquête ?
J'en ai eu plusieurs, mais l'une d'entre elles est assez amusante, c'est-à-dire qu'en fait, je suis remontée jusqu'à un dénommé Franciscus. Il est né en 1620, Franciscus Carleger, et à l'époque, les registres étaient tenus en latin. Les noms étaient latinisés. Donc Franciscus, c'était François, mais il s'appelait Franciscus. Et Franciscus a eu des enfants qui avaient des parrains et des marraines nobles, parce que les parrains et les marraines ont un rôle très très important. Je dirais, sont un peu les garants de la survie des enfants, c'est quand les parents ne sont plus. Donc, il a eu des enfants, un petit-fils aîné, et quand j'ai regardé ensuite les registres relatifs à son petit-fils aîné et à ses enfants, je me suis rendu compte qu'il y avait des anomalies étonnantes. On parlait d'oncle, de tante, etc., alors que le dénommé Franciscus n'avait eu que 4 enfants. Et tout le monde s'est trompé. Pratiquement tout le monde s'est trompé, sauf au centre généalogique de Bretagne, où je n'ai pris que les actes que je pouvais lire. Je ne me suis pas basé sur des oui-dire. Bon, et donc sur un des actes, il était écrit qu'il y avait un oncle, une tante, des oncles, des tantes, etc. Et c'était incompréhensible. Et c'est là où, en travaillant un peu l'histoire de la Bretagne, qui est d'ailleurs le même que celui de différentes régions de France, dont la Corse, dont la Bourgogne, qui, avant la Révolution, appelait oncle et tante non seulement les frères et sœurs des parents, mais aussi leurs cousins germains. Et donc, ça donne une parentèle absolument extraordinaire, avec une ouverture énorme. Et c'est comme ça que j'ai compris ce qui s'était passé.
C'est ce qu'on appelle les liens de parenté à la mode de Bretagne.
Voilà. C'est ce qu'on dit.
Qui a compliqué donc, cette enquête. Donc, par exemple, un oncle à la mode de Bretagne, ça peut être le cousin
germain
du père. Ou de la mère.
Voilà.
Donc effectivement, ça complique un peu les choses. Vous confiez dans ce livre que vous auriez pu porter, ou plutôt voulu porter, un autre nom de famille, celui de votre arrière-grand-mère paternelle,
oui.
C'est bien
oui,
ça ?
Oui.
Alors, je vais vous laisser dire le nom de famille, parce que je ne suis pas certaine de maîtriser.
Oui, c'est Créard-Cadec.
Qu'est-ce qui signifie ?
Créard, ça veut dire le promontoire. À Ouessant, par exemple, vous avez un phare qui s'appelle Créard. Alors, ça s'écrit le R guttural que je prononce mal, c'est C apostrophe H. C'est un trigramme C apostrophe H qui se prononce R. Donc, c'est un promontoire et Cadec, c'est un guerrier. Donc, au fond, c'est le guerrier du promontoire et ça me plaisait beaucoup.
Comme vous dites, on y voit un phare combatif qui lance des éclairs sur les malfaisants.
Voilà.
C'est une belle image. Je voulais vous poser quelques questions plus générales sur la généalogie, puisque partir à la recherche de ses ancêtres, certains en parlent parfois comme un véritable phénomène de société. Par exemple, depuis le premier confinement, le nombre de sites internet dédiés au sujet a bondi de 70%.
Oui.
Donc un succès qui s'explique, vous l'avez plus ou moins dit, par l'accès aux archives qui s'est simplifié par la numérisation. Mais pas seulement. Comment vous l'expliquez, ce succès grandissant de la généalogie ?
Alors, tout d'abord, parce qu'effectivement, on a accès à sa généalogie, donc on a accès aux ancêtres, et donc c'est très intéressant de savoir d'où on vient. D'ailleurs, d'où venons-nous, où sommes-nous, et où allons-nous ? On a toujours envie de savoir d'où l'on vient, mais aussi, je pense qu'aujourd'hui, on a un véritable problème, parce qu'il y a eu toute une poussée pour essayer d'effacer les racines, c'est-à-dire on est tombé dans le wokisme, la cancel culture, essayer d'effacer tout ce qu'il y a. Or, en fait, on ne peut pas effacer ces racines, elles sont là, il faut les digérer, il faut faire avec, il y en a qui sont bonnes, il y en a d'autres qui le sont moins, mais il faut faire avec. Et il ne faut pas non plus les encenser, il ne faut pas non plus dire tout était mieux hier, c'est pas vrai. La durée de vie est beaucoup plus grande aujourd'hui, on vit beaucoup mieux aujourd'hui qu'hier. Donc en fait, on a cet antagonisme entre ceux qui sont pour conserver le passé et les autres qui... Et d'ailleurs, ça se ressent même dans la biodiversité, on veut tout conserver, ce qui n'est pas pensable. Et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui veulent tout effacer. Et je pense qu'il y a un juste milieu, un équilibre. D'ailleurs, la vie n'est qu'un équilibre. Donc on a un équilibre et on se doit de penser à nos racines avec le bien et avec le mal. Et je crois que c'est un peu ça que les gens essayent de trouver, c'est cet équilibre entre le blanc et le noir.
On pourrait lier ces deux antagonismes parce que, effectivement, vous pointez la menace d'un déracinement inouï, c'est ce que vous dites dans ce livre. Mais quand on voit cet engouement grandissant pour les ancêtres, l'histoire, est-ce que justement il n'est pas une preuve qui démontre que nous sommes toujours en quête de repères ?
Je pense qu'on est toujours en quête de repères et je crois que justement le mal-être d'aujourd'hui provient du fait qu'on a voulu effacer ces repères. Je pense qu'il ne faut pas du tout les effacer, il faut les accepter, ceux qui sont bons comme ceux qui sont mauvais, il faut en tirer des leçons et puis vivre avec nos racines.
Ce besoin d'ancrage qui nous aide à grandir, c'est ce qui vous pousse à vous positionner sur certaines pratiques comme la GPA, par exemple, que vous évoquez dans ce livre.
Je pense que la GPA est un progrès. Il faut quand même voir les points. Mais il faut aussi penser aux enfants que l'on engendre. C'est-à-dire, en fait, quand vous avez un enfant qui vient d'un ovocyte, d'un spermatozoïde, et qui est porté par une mère porteuse, il va après rechercher absolument ses parents biologiques. D'ailleurs, c'est très étonnant. Quand vous écoutez n'importe quelle série à la télévision ou n'importe où, qu'est-ce que vous entendez ? Vous entendez toujours les parents biologiques et les bagarres entre les parents qui ont élevé et les parents biologiques. Je crois que c'est important de se poser cette question.
Alors, je voulais aborder un autre phénomène, toujours en lien avec la généalogie. C'est la recherche généalogique par ADN. Et donc, la question intéresse peut-être la femme de science que vous êtes. Aujourd'hui, en 2 minutes, avec un kit et un peu de salive, on peut faire tester son ADN pour en savoir plus sur ses ancêtres, ses origines ethniques. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire ?
Moi, je ne l'ai pas fait, mais je conçois très très bien qu'on puisse le faire, qu'on ait envie de savoir, même de remonter très loin sur son ADN. Je comprends très bien qu'on puisse le faire. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment se sont déplacées justement les populations grâce à ce qu'on peut mesurer sur l'ADN. Moi, je pense que c'est un progrès.
Votre conclusion m'a rappelé le passage d'un livre de Delphine Horviller, la femme rabbin écrivain. Quand vous dites à quel point il est important de construire l'avenir avec le passé et sur nos racines, ça m'a fait penser au passage suivant de ce livre qui s'intitule « Comprendre le monde », un passage sur la transmission que je vous cite. « C'est parce qu'un bateau est chargé de quelque chose qu'il peut naviguer. Personne ne peut naviguer à bord du bateau de Peter Pan. D'ailleurs, Peter Pan ne peut pas grandir, il n'a pas d'ancrage, de lest, il n'a pas de parents et n'a hérité de rien. » Et j'aime bien cette métaphore maritime qui rappelle aussi le passé de marin de vos ancêtres. Ici, Delphine Horviller parle de Peter Pan, donc personnage de fiction qui ne peut pas grandir parce qu'il n'a pas d'histoire, pas de parents, pas d'héritage. Et vous, de quoi avez-vous hérité, Catherine Vrichniak ?
Moi, j'ai sûrement hérité d'une ténacité, d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup François Hyacinthe, d'une ténacité forte qui vient de ma famille, d'une résilience, et puis du goût de l'aventure.
Justement, en parlant de tous ces souvenirs, si vous deviez faire une carte postale de votre Bretagne idéale, quelle image se dessinerait si vous fermiez les yeux ?
Ah, quand je ferme les yeux, je vois le granit. Le granit, pour moi, c'est une roche magnifique, hein. Quand elle est chauffée par les rayons du soleil, vous pouvez le soir vous appuyer sur le granit, c'est magnifique. Évidemment, j'aime énormément les monts d'Arrée, qui sont très sauvages, hein, balayés par le vent. J'aime aussi beaucoup les constructions bretonnes, les menhirs. Enfin, je retourne toujours sur cette pierre, et puis bien sûr la mer.
Vous avez entendu parler pour la première fois de l'Académie des sciences par votre grand-père au cours d'un repas, lorsque vous étiez encore une enfant. La première impression que vous en avez à ce moment-là, c'est l'image, je cite, d'un sommet, d'un endroit inaccessible.
Oui. Alors,
depuis, le temps a passé. Vous avez été élue en 2005 à l'Académie des sciences, puis vous êtes devenue la secrétaire perpétuelle de cette Académie. Aujourd'hui, elle vous semble un petit peu plus familière, cette Académie ?
Pour moi, enfin, je ne pouvais pas imaginer ça quand j'étais petite. Pour moi, elle me semble évidemment maintenant plus familière, mais je me souviens encore quand je suis rentrée la première fois à l'Institut de France, c'était avec une certaine émotion. On ne peut pas rentrer dans un endroit pareil sans se dire tout ce qu'il y a eu, toutes les réflexions qu'on a faites. D'ailleurs, dans mon livre, je parle à la fois de ce peuple breton qui est le tissu du peuple, mais aussi, de temps en temps, je fais quelques références aux scientifiques de la même époque qui, eux, tiraient aussi le monde dans un autre sens, avec un tissu de scientifiques, parce que là, c'est le tissu breton, mais les autres, c'est un tissu scientifique, les uns avec les autres, qui essayent de comprendre le monde et de faire que les uns ont besoin des autres.
Et ce tissu de scientifiques à l'Académie des sciences, vous l'envisagez aujourd'hui comme une seconde famille ? Ou comme un lieu de transmission ?
Oui, plus comme un lieu de transmission que comme une famille, mais oui, comme un lieu de transmission. Moi, j'appartiens, c'est un peu ce que je dis dans mon livre, je suis un peu hybride, j'appartiens aux deux.
Oui, vous avez deux portes d'attache.
Oui.
Un grand merci, Catherine Vrichniak, pour ce voyage dans le temps et dans l'espace. Je rappelle le titre de votre dernier livre, donc « La force de nos racines, une épopée de gens ordinaires », et donc c'est c'est bien plus qu'un arbre généalogique que vous dressez, c'est une partie de notre histoire à tous. Et donc, c'est à découvrir aux éditions du Cerf. Merci beaucoup.
Merci.
Canal Académie.